meeting of the ICANN board and the CCNSO, 20th, 2015, Morium Room, from 9:45 a.m. 45 a.m.
Ladies and gentlemen, if you please take.
Mesdames et messieurs, veuillez prendre place dans la salle, s'il vous plaît. Nous allons reprendre.
Byron, do you want me to? Byron. Welcome everybody.
Steve Crocker au micro. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme j'ai l'habitude de le dire, ces réunions sont toujours limitées en termes de temps. Donc on essaie de tirer parti du temps qui nous est consacré pour aborder les questions les plus importantes et pouvoir interagir avec vous. Avant de faire cela, j'aimerais vous rappeler qu'on en est à une période de l'année où il y a des changements au sein du conseil d'administration. Et au sein des conseils, donc j'aimerais vous présenter les nouveaux membres du conseil d'administration cette année. Leto, Louise et Ron, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Chris Despain au micro, excusez-moi. Je voulais vous présenter les excuses de Byron, qui se trouve légèrement souffrant et n'a pas pu venir ce matin. Voilà, il était un peu souffrant, donc il n'a pas pu venir ce matin. Mike.
Okay. The agenda is.
Steve Crocker au micro. Bon, votre ordre du jour pose plusieurs questions. Vous êtes tous au courant des travaux intenses du CCWG et de la proposition qui est en train de voir le jour. Étape formelle suivante, cette proposition va être présentée aux organisations et chaque organisation va être appelée à la ratifier et la renvoyer au conseil d'administration. Nous nous sommes énormément engagés pour participer de manière très active à ce processus. Dans quelle mesure les procédures du CCWG sont visibles et prises en considération par la CCNSO et précisément quels sont les points de vue et positions des membres de la CCNSO, dans quelle mesure ces mesures donc, ces points de vue pardon, sont dans la lignée des conclusions de ce groupe de travail. Byron Holland au micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On a beaucoup de choses à notre ordre du jour. Comme vous pouvez l'imaginer, pour répondre partiellement, nous avons énormément de points à notre ordre du jour aujourd'hui et demain. Donc, pour revenir à votre question, Steve, sur le deuxième point à l'ordre du jour. Mais d'abord, j'aimerais céder la parole à Kiss, qui va nous mettre à jour sur l'état de l'ICP1 et les principes GAC et quelles sont les implications. Chris Davidson au micro, bonjour à tous. La mise en œuvre FOI a été approuvée par le conseil d'administration de l'ICANN lors de la dernière réunion. Becky et moi-même avons été nommés par les membres de la CCNSO pour être à disposition pour aider sur les questions liées à la mise en œuvre. Je peux vous dire que nous avons eu un travail très productif avec le personnel IANA et nous avons énormément progressé. Donc, nous réjouissons de voir que certains aspects de la mise en œuvre, y compris le retrait des références à l'ICP1, et les principes 2000 du site web de l'IANA. Donc, certains des CCTLD font partie de l'approbation pour la proposition de nom pour la transition IANA. Donc, nous saluons que cela ait été fait. Peut-être que ça va. Peut-être qu'il va y avoir quelques problèmes cet après-midi lors de la présentation du rapport IANA, donc on verra. Mais ça va être très utile pour les CCTLD qui ont approuvé la proposition de nom une fois que ce travail va être fait. Il serait bon d'avoir eu un aperçu, une idée de la date à laquelle cela va être fini. Je n'attends pas une réponse claire, mais si d'ici les prochains jours, on pourrait avoir une idée, ça serait très bien. Chris Despain au micro. Puis-je répondre, Byron, brièvement? Merci, Chris Despain au micro. Donc, vous vous réunissez avec le personnel IANA cet après-midi, n'est-ce pas? Donc, vous allez poser des questions par rapport à ce processus d'archivage et par rapport au calendrier. Bon, si vous n'obtenez pas de réponse, faites-le moi savoir et on va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas quel est le processus en cours par rapport aux archives, mais attendons de voir ce qu'ils disent. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci. Byron au micro, y a-t-il d'autres questions, interventions, commentaires sur cette thématique? Alors, vous voyez ici à l'écran l'ordre du jour, deuxième point à l'ordre du jour. Nous aimerions connaître l'avis du conseil d'administration sur une discussion qui a eu au début de la semaine. Besoin potentiel d'une réunion entre sessions concernant la proposition finale du CCWG sur la responsabilité. Peut-être qu'il y aurait des changements matériaux à apporter à la proposition dans sa troisième version. Donc, nous aimerions connaître l'avis du conseil d'administration, à savoir si des changements de fond sont faits. Pensez-vous qu'il faudra organiser une réunion intersession? Et donc, quand est-ce que cela pourrait avoir lieu? Steve Crocker au micro. En fait, je suis un peu surpris. Du point de vue du conseil d'administration, nous pouvons le faire, mais je ne pense pas que ce soit notre travail de prendre une décision sur le fait de savoir si une réunion intersession est nécessaire ou pas. Le conseil d'administration n'a pas besoin d'organiser ou d'appeler une réunion intersession. Donc, ça dépend de ce dont a besoin la communauté. Byron au micro. Oui, je vais peut-être développer un petit peu. Il semblerait qu'une troisième proposition inclurait ou impliquerait un changement de fond sur cette troisième version. Là, je m'avance un petit peu, mais il semblerait que ce soit le sentiment qui prévaut actuellement. Est-ce que, dans ce cas-là, les membres du conseil d'administration seraient d'accord pour une réunion face à face, physique, pour examiner le fond de la proposition 3? Donc, une réunion intersession. Chris Despain au micro. Oui, un petit peu d'information. Je crois, Byron, que les CC ont toujours dit, pour reprendre ce qu'ils ont dit, qu'ils n'aimeraient pas signer donner leur accord pour la proposition 3. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que veulent les SO et AC de manière individuelle? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'elles le veulent individuellement ou avec le conseil d'administration ou le GAC? Deuxièmement, est-ce que la communauté dans son ensemble a le sentiment qu'il est nécessaire d'organiser une réunion finale où le rapport final serait débattu? Je pense que, personnellement, la réponse est oui. On peut toujours organiser ce genre de choses. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment un désir tel que celui-ci? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Byron au micro, oui, tout à fait. Vous y avez bien répondu. Donc, ce que je crois comprendre d'après ce que vous avez dit, c'est qu'en fonction de ce que les groupes de la communauté individuelle demandent au conseil d'administration, le conseil d'administration serait disposé, ou plutôt l'ICANN pourrait organiser une réunion intersession. Fadi au micro, oui. Oui, nous allons attendre l'expression de la part des organisations. S'ils disent qu'ils sont d'accord pour une réunion virtuelle, en particulier maintenant où nous avons les moyens nécessaires pour organiser des interactions par vidéo, d'autres préfèrent se réunir en personne. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que certaines de ces demandes se concentrent sur la première partie de décembre. Là encore, ça dépend des demandes qu'on va se voir. il faut en tout cas que notre équipe commence à y réfléchir et voir quelle est la direction. Et là encore, ça va dépendre des instructions que nous donnent les SO et AC. Crise Spain au micro. Du point de vue logistique, je pense qu'une demande, c'est une demande. Mais si on a 2, 3 ou 4 demandes, ce qui serait logique, c'est d'avoir une réunion et pas plusieurs réunions. Donc tout ça, ça dépend du nombre de demandes qu'on reçoit ou si on reçoit une demande pour organiser une réunion. Steve Crocker au micro. Oui, ça a été intéressant cet échange. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, mais peut-être avec un point de vue différent. Quand cette proposition va arriver, il se peut qu'il y ait des points de controverse qui vont engendrer un certain malaise chez dans certains groupes. Et donc, l'objectif d'une réunion face à face serait de négocier, entre guillemets, ou bien il se pourrait que la proposition qui émane s'oriente davantage vers un consensus et que ce qu'on recherche, c'est la possibilité de se réunir, d'être à l'aise et d'essayer de mettre en place un processus de compréhension et de réunion. Donc voilà un petit peu pour moi l'objectif d'une réunion intersession. Pour ce qui concerne la prochaine proposition, l'une des questions qu'on nous pose le plus souvent est la suivante. Allons-nous avoir besoin d'une période de commentaires publics et une question de calendrier? Donc tout cela, c'est lié. Pour ce qui concerne la logistique, je pense que notre équipe de réunion, notre soutien, qui travaille d'arrache-pied, est toujours prête. Hein. Il suffit de demander et ils savent très bien comment s'y prendre. Donc, il n'y aura pas de problème. Non, je pense que la note optimiste ici, c'est que j'espère que cette semaine, nous allons pouvoir finaliser ce qui va être présenté, proposition 1 ou proposition 2, mais je suis sûre que cette semaine, on va pouvoir voir les grandes lignes. Et j'espère que la communauté aura la possibilité dans les 48 prochaines heures d'analyser, de parler de ces grandes lignes. Et donc qu'on va pouvoir s'assurer qu'il y a un dialogue en place. Mais comme mon chef l'a dit, on a toujours la possibilité d'organiser cela, mais on veut s'assurer que la communauté a les moyens de délibérer. Vous avez notre engagement là-dessus.
Y a-t-il des commentaires, des questions? Chris Despain voulait dire sur la logistique ou sur la transition générale. Chris Despain, sur la transition avant qu'on passe à la mise en œuvre. Nigel. Chris Despain, je sais que Georges avait quelques questions aussi. Chris Despain. Oui. Nigel Roberts. Quand il s'agit de la logistique et aussi en pensant qu'il y aura peut-être un face-à-face, je voudrais être d'accord à 100% et souligner surtout sur ce que Chris a dit. Chris a identifié 2 domaines, pas seulement au sein du CCNSO, mais aussi, il a souligné le fait qu'il y a besoin d'une certaine communication avec la communauté. Le CCNSO est assez unique, car il y a un troisième élément qui n'a pas été considéré d'ailleurs. Ces CCTLD qui ne sont ni dans le GNSO ou dans le CCNSO. Quand on parle de sensibilisation, on doit penser à un effort soutenu, final, pour engager ces CCTLD. Des gens à qui nous n'avons peut-être jamais parlé. Il y en a 1 ou 2 de CCTLD qui ne sont pas membres, qui ne sont pas actifs. qui ne sont pas membres, mais qui malgré tout sont très actifs. Mais ils sont dans la minorité. Il doit falloir absolument atteindre tous ces gens-là. Chris, je pensais que Paul leur avait parlé. Nigel, oui, seulement mardi. George, au micro. Vous avez soulevé un point important. La question que j'avais, comment est-ce que les choses qui sont représentées comme opinion du CCNSO, de leur opinion dans les procédures CCW, représentant les procédures CCWG, dans le grand univers des CCTLD. Il y a beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qui se passe et beaucoup de gens ne savent pas comment leurs intérêts seront affectés. Quelle est votre idée, Chris Spain? Je voudrais juste dire quelque chose avant Byron. Vous avez raison, il y a une tendance de surjouer tout cela. Vous savez, les CCTLD font leur propre. Les CCTLD sont souverains. Ils font partie du CCNSO entièrement, volontairement. Il n'y a pas de base contractuelle. Ce n'est pas comme les GTLD qui ont en effet obligés d'être là. Donc, nous, on a des CCTLD qui ne sont pas membres du CCNSO, qui ne doivent pas, ils ne viennent pas forcément à toutes les... et qui viennent quand même aux réunions. Ils ont toujours l'opportunité d'être participés. Ils ont toutes les opportunités. Nous essayons de les faire participer au maximum. Je n'aurais pas poussé trop non plus parce que on sera au-delà du AT20 et ce sera ridicule. George Todorski, merci. Byron, juste pour vous rappeler qu'il y avait beaucoup de sensibilisation qui a été faite vis-à-vis de la communauté entière des CCTLD durant les processus CWG. Tous les CCTLD au niveau mondial ont été informés jusqu'à ce que, bien sûr, s'ils faisaient attention, on peut emmener le cheval vers l'eau, mais on peut pas le faire boire. On peut pas l'obliger à boire. Ils ont eu l'opportunité de participer au processus et beaucoup de membres qui n'étaient pas CCNSO l'ont fait. Le coprésident de CCNSO du groupe CWG n'est pas, en fait, membre du CCNSO, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite au sens large dans la communauté CCTLD. Je crois qu'il y en a 155 au CCNSO, alors qu'il y a 193 CCTLD. Ça représente tous les domaines, tous ces noms, tous ces CCTLD sont donc bien représentés. En grande majorité. La réponse pour la deuxième question de Georges, est-ce que les membres CCNSO au sein du CWG reflètent justement ou exactement l'opinion en général du CCNSO à large? Il y a des opinions différentes, bien sûr, dans nos membres nommés, même au sein de la communauté CCNSO. Et disons, durant la journée et demie de notre réunion, de notre unité constitutive, nous allons pouvoir avoir une opinion très exacte de la salle, de l'audience, et nous allons rappeler à nos membres qu'ils sont là pour écouter la volonté du public et de représenter cette volonté vis-à-vis du CCWG et aussi refléter cette opinion CCWG vers le CCNSO. Ils ont un rôle à deux sens. Nous allons leur rappeler tout de même qu'ils doivent écouter le CCNSO et ramener tout cela vers le CCWG. Peter, au micro, oui. Première question, en addition des efforts du CCNSO pour communiquer avec le CCWG, il y a eu beaucoup de résultats vis-à-vis des régions, des organisations régionales. Je peux parler à mon opinion de mes collègues sur le LAC TLD et les autres. En addition, un message qui a été envoyé par courriel durant et aussi par les face-à-face. On a passé énormément de temps à discuter ces sujets en termes de chiffres, en termes de nombres. On a probablement ajouté 20 à 30 CCTLD qui n'étaient... Nous avons 12 membres d'ailleurs qui ne sont pas membres des CCNFSO dans à peu près 40 régions. Comment est-ce que les CCWG représentent les CCA, le représentant du CCTLD parle à tout le monde dans la communauté et nous avons souligné que les opinions étaient exprimées dans les débats. Ces opinions reflètent bien les discussions qui sont en cours. Nous avons fait des déclarations jointes durant l'Assemblée générale à Copenhague, d'ailleurs. Les 52 membres étaient là et soutenaient ce point de vue. Ce point de vue a été vraiment suivi à travers tout le processus, pas seulement au CWG, mais au CCWG. Pas seulement au CCWG, mais aussi... pareil. Merci. Byron, merci Peter, et merci pour High Lightning et son travail dans les IRO. Tout le monde a collaboré avec les IRO qui a fait beaucoup de sensibilisation au-delà de ce que fait le CCNSO. Cela revient vers la question du débat. Tous les CCTLD ont eu l'opportunité, la chance de participer dans ce processus. Y a-t-il d'autres commentaires ou de questions sur cet ordre du jour, ce point d'ordre du jour numéro 2? Donc, nous allons passer au point d'ordre du jour numéro 3, la mise en œuvre des processus lorsqu'il s'agit des propositions du CWG et du CCWG. Pour avoir un petit peu une idée du comment est-ce que la CAN pense commencer à gérer le processus de mise en œuvre. Bien sûr, la question est que on assume que la proposition va être réussie. Et si on assume que ce sera le cas, comment est-ce que l'ICANN prévoit le processus de mise en œuvre? Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que le travail avec le CWG et le CCWG, quand il s'agit de rôles et responsabilités et la communauté à large? Et aussi au niveau de la chronologie, du calendrier, nous savons que nous avons du temps, mais pas assez. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc quelle va être la séquence des événements? Comment est-ce que ça va être régulier avec ce que le NTIA pense faire comme travail avant la certification possible? Steve Cocker, oui, je voudrais suggérer le fait que... quand il s'agit du CWG, il y a des mises en œuvre, des problèmes de mise en œuvre opérationnelle. Comment est-ce que les mises à jour sont faites pour le groupe et ce qui se passe au sein du groupe par rapport à la responsabilité ou les changements de procédures contractuelles sous les termes d'opération. Et surtout sur le CCWG avec les changements de statut qui vont avoir lieu. Donc, en termes généraux, je diviserai cela en deux groupes de mise en œuvre, de mise en application. Je pourrais parler un peu des changements de statut et la vitesse avec laquelle nous pouvons faire cela. Je voudrais demander à Fadi de parler des aspects opérationnels, à moins que vous pouviez raffiner un peu la question. Qu'il y a énormément de parties qui sont incluses. Fadi Shehadé, au niveau le plus large, le plus général, nous avons mis en place un programme au niveau d'un bureau de gestion, le programme qui est mené par Train, qui va vous donner des détails. Nous avons donc mis du personnel dans ce bureau. Ce bureau est mis en place. Il a un programme qui doit être mis en œuvre et ça a été visé, comme je l'ai dit dans ma cérémonie d'ouverture. Nous avons trois groupes de travail, trois parties de travail, disons. Il y a un système de gestion régionale où nous avons fait énormément de progrès parce que cela comprend des discussions très compliquées avec le gouvernement US et VeriSign. Nous avons énormément participé là-dessus. C'est très important de se souvenir que nos mains sont un petit peu... nous ne pouvons pas tout faire maintenant. Nous sommes un peu limités jusqu'à ce que la proposition soit donnée au NTIA et sur ce qu'on peut faire après. Ce n'est pas simplement une question de ressources ou c'est une question de... une limitation contractuelle sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui par rapport à ce que nous pourrons faire par la suite après l'accord du NTIA. Il y a aussi des implications politiques. Si nous semblons mettre en application cette transition avant que cette transition soit approuvée, nous devons équilibrer ces deux parties. Ça, c'est la vue en général. Si vous voulez des détails, si vous voulez passer 2 minutes sur les détails, je peux demander à Train de vous expliquer les éléments de ce processus et de voir comment il planifie travailler avec le CCWG et le CWG. Byron, oui, je pense que ça nous aiderait énormément. Train, notre directeur responsable de l'office du bureau des programmes. Train, il y en a au micro. Merci, Fadi. Du côté de la mise en application, en travaillant avec CCWG et le CWG à travers la phase de mise en application, nous commençons maintenant à la réunion de Dublin à participer avec le leadership du ICG, CCWG et l'équipe CRISP et aussi avec l'équipe IANA et l'équipe CCWG pour discuter comment nous allons continuer à participer avec eux durant la phase de mise en application, pour comprendre quelles sont leurs demandes quand il s'agit de leur contrôle sur les besoins de rapport. Nous avons besoin de clarification sur certains éléments et de préparation que nous avons fait. Nous travaillons toujours avec eux pour essayer de clarifier tous ces points. Comme Fadi l'a dit, nous sommes dans une phase de préparation administrative. Nous commençons à regarder certains des éléments de la proposition, des choses que nous allons avoir à mettre en œuvre. Et nous essayons de voir si nous pouvons mettre une chronologie en place. Nous avons une réunion demain après-midi où nous allons parler de cette chronologie, de ce calendrier avec vous. Mais voilà, c'est le travail que nous avons fait jusqu'à présent dans cette préparation administrative, des phases de préparation administrative, de voir ce que nous devons mettre en place et essayer d'identifier un calendrier, identifier les ressources de personnel et de voir ce que nous allons faire pour pouvoir participer avec la communauté pour voir comment est-ce que nous allons continuer à travailler avec la communauté dans cette phase de mise en application. Fadi Gerhadé, le plus rapidement possible, le plus rapidement la communauté nous donne sa proposition, le plus rapidement nous pourrons faire les choses. Et comme ça, nous pourrons avantager, disons, le calendrier. Si le calendrier de la communauté est plus rapide, nous pourrons amener le contrat au gouvernement au 107, donc au 30 septembre-là, de septembre. Si nous pouvons livrer cela au 30 septembre, plus vous nous donnez les choses tous les jours, quand vous nous donnez des informations, cela aide au calendrier, à la date butoir. Steve Crocker, au niveau du conseil d'administration, pour la forme au moins, tous les changements au statut qui demandent des réactions formelles à nos processus qui sont en place. Il faut faire une version préliminaire des statuts, faire passer les résolutions. Cela doit être ajusté à cause des circonstances particulières que nous avons maintenant. Mais d'habitude, nous passons des résolutions qui suggèrent qu'il faut mettre les versions préliminaires devant des périodes de commentaires, et puisque là va pas forcément être nécessaire, puisque nous avons un calendrier à adopter les statuts, la condition formelle que nous avions pour adopter les statuts. Certains de ces changements de statut ne nécessitent pas une mise en application. D'autres changements de statut, nous devons en expliquer les processus Donc il y a beaucoup d'attention qui est placée là-dessus. Il y en aura encore plus dès que tous les détails seront clairs. Ce que je trouve, moi, inquiétant, et je parle à mon avis, à mon opinion, on va devoir vraiment détailler les statuts en question en tant que documents. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Ce n'est pas vraiment un ensemble très, très bien fait. Et moi, à mon avis, il y a plein de choses qui vont être faites à ce sujet-là et ça va devenir encore plus compliqué et encore moins bien huilé. Et j'espère qu'on aura la chance de le faire. Sans être agressif, on va pouvoir mettre un peu de couleur dans ces statuts. Nous avons des éléments dans les statuts qui mettent des obligations sur cette organisation qui sont en dehors de la CAN. Et pour moi, ça représente des morceaux cassés de notre affaire. On ne peut pas passer des lois qui s'appliquent à d'autres personnes sans avoir des intentions de les mettre en application. Donc, il y a des erreurs. C'est les erreurs qui me font peur. Et je vois que Fadi veut parler. Fadi, oui, un dernier commentaire. C'est important parce que c'est un changement. Nous pensions... que nous devrions avoir, est-ce que les statuts soient écrits et complétés dans la proposition que nous envoyons au gouvernement américain. Cette requête a été maintenant relaxée, disons arrêtée. Donc nous pouvons livrer cette proposition au gouvernement américain sans que tous les statuts soient à l'écrit. Ce qui veut dire que nous avons pu relaxer un petit peu les demandes, les requêtes qui avaient été faites. Nous pouvons peut-être passer alors par des PDP si le conseil d'administration décide de mettre les statuts en période de commentaire public après que nous livrions la proposition au gouvernement américain. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le calendrier de façon très précise, si le CCWG, le président du CCWG et les rapporteurs vont être les héros, vont être les héros que nous aimerions qu'ils soient et nous livrer cette proposition, je vous mets pas la pression, mais s'ils livrent la position vers la communauté en novembre, et donc en décembre, les organisations membres pourraient la lire et nous pourrions donc ainsi livrer cela au gouvernement américain avant la fin de l'année. Si nous faisons cela, même après ça, nous pourrions avoir une commence de période de commentaires avec les changements des statuts. Et cela, donc, enlèverait un peu la pression que nous avions auparavant. C'est juste pour clarifier les choses. J'espère que cela va vous aider. Byron, oui, merci, Fadi. Donc, pour que je comprenne mieux, comment est-ce que cela a changé? Pourquoi est-ce que cela a changé? Pourquoi est-ce que les deux ne vont plus de pair? Fadi, non, nous n'avons pas assez de temps pour cela. Nous suivons les instructions. Nous sommes encore dans le mode de suivre les directions qui nous sont données des avocats, du NTIA, de nos avocats qui discutent. Nous sommes encore en phase de clarification. Ça revient vers ce que j'ai dit tout à l'heure. Combien pouvons-nous mettre en œuvre et à quel point du processus, à quelle étape du processus, c'est quelque chose, nous travaillons avec eux en continu. Et puisque le calendrier a été réduit, nous continuons à retourner, on se dit est-ce qu'on peut faire sans ou avec ça et est-ce qu'on peut changer ça ou ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un du NTIA dans la salle? Non, enfin moi je vous fais passer ce que l'on m'a dit. Clairement, et c'est une bonne chose, cela nous donne une meilleure direction. Byron, oui, je vais passer le micro à Jordan. Jordan qui avait levé la main. Jordan Carroll, .1DCCWG.NZ. Je voudrais parler de notre travail. Et quand on parle de la mise en œuvre, quand on met en œuvre une proposition dans le modèle multipartite, souvent il faut travailler avec d'autres organes. Quand quelqu'un met en place des demandes, Donc, on a une mise en œuvre qui doit être compressée dans une certaine chronologie. Donc, je me demande si... Est-ce que vous pouvez partager avec nous des étapes concrètes, des intentions concrètes que vous avez dans votre approche, dans la mise en application de ce projet? Comment est-ce que vous restez en contact avec tous les groupes qui ont développé les propositions et que vous assurez que cette mise en application soit faite en bonne foi? Steve Crocker, nous avons un bureau avec votre nom au-dessus à Los Angeles pour que vous soyez en résidence permanente pour surveiller ce processus de mise en application. Jonathan, c'est le nom de Mathieu dessus ce bureau, pas le mien. Chang, oui, Jordan, c'est ce que nous essayons d'établir avec ces réunions dans lesquelles nous parlons avec les équipes de leadership de la communauté. Nous avons eu des conversations préliminaires avec Jonathan, Liz, en ce qui concerne la proposition CWG, et comment nous allons continuer à travailler avec eux. Nous n'avons pas encore commencé à parler de la phase de mise en œuvre et comment est-ce qu'ils vont rester intacts, quels sous-groupes vont être mis en place et quelles sont leurs limitations et quel rôle ils vont avoir. Nous avons commencé la conversation avec eux, ainsi ils puissent eux-mêmes avoir leur conversation avec leur équipe respective. Nous voulons que ce processus de mise en œuvre puisse être en collaboration avec les communautés. La dernière chose que nous voulons, c'est faire quelque chose et que 5 ou 6 mois après, entendre dire que ce n'était pas la direction que nous aurions dû prendre. Donc, nous voulons travailler dès le départ avec le plus possible avec la communauté.
Bruce.
Thanks, Byron.
Bruce Tompkin au micro. Oui, merci. J'essayais de voir en quoi il y avait un dédoublement par rapport à la NTIA. Je pense qu'il y a un processus qui va impliquer des mois de travail. Et pendant ce processus, on va pouvoir travailler sur la redéfinition des statuts. Mais tant qu'on n'a pas finalement signé ces changements de statut, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, il faudrait que ce soit fait avant la soumission de notre rapport. Mais il faut que ces changements de statut soient faits avant. Donc, pour revenir aux commentaires de Jordan, ce qu'on fait d'habitude du point de vue de la gestion d'un projet, on constitue un groupe de direction qui s'occupe de la mise en œuvre. Donc, par exemple, pour les statuts, vous auriez besoin d'un groupe directeur, je sais que le CCWG y travaille déjà, pour examiner donc ces changements de statut au fur et à mesure que vous allez avancer sur la mise en œuvre de la transition IANA et autres. Donc, il va falloir certainement constituer un groupe de direction avec les membres de la communauté et voir s'il y a des précisions à apporter. Baron au micro, merci. Je pense que c'est une précision importante par rapport à cette question du dédoublement. Personne dans la salle. Oui, j'aimerais savoir si vous avez une nouvelle préoccupation sur de nouvelles questions qui auraient émergé. Et dans cette nouvelle étape. Donc, j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a de nouvelles questions que l'on devrait prendre en considération. Byron au micro, oui, c'est une excellente question. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu notre réunion de l'unité contestative, donc nous n'avons pas encore notre programme nécessaire pour parler au nom de la communauté. Donc, je ne suis pas en position de dire clairement ce qu'a dit la communauté, mais clairement, il y a l'idée générale selon laquelle on pourrait avancer vers un modèle de désignateur. Je ne veux pas m'avancer sur les résultats ici, mais j'ai l'impression que c'est ce qui éventuellement, ce que j'ai entendu. Et je n'ai pas entendu de forte résistance par rapport à cela. Par rapport à l'applicabilité de ce type de modèle, bien entendu, il y a encore des aspects de la question et des problèmes à régler. Mais encore une fois, je n'ai pas entendu d'objection forte par rapport à, au chemin à suivre. Donc, je le répète, nous n'avons pas encore eu la réunion de notre unité constitutive. Intervenant dans la salle, est-ce que nous avons le temps pour une autre question? Bien. Sera-t-il possible, lorsque vous aurez votre réunion d'unité constitutive et que vous aurez entendu les différents points de vue, serait-il possible donc d'avoir une indication claire des préoccupations par rapport aux différentes options ou des autres questions qui pourraient surgir? Parce que tout le monde ne peut pas forcément participer et être dans la salle. Donc, j'aimerais savoir s'il serait possible... Chris D. Spain au micro. Oui, nous allons être là avec Mike pratiquement tout l'après-midi, donc on vous fera rapport ensuite. Byron Holland au micro. Oui, Michael Kress va nous rejoindre plus tard dans l'après-midi. Mike et Chris vont nous rejoindre plus tard dans l'après-midi. Et donc, notre réunion aujourd'hui et demain va être dédiée à cette question. Mais sachez que Mike et Chris vont nous rejoindre demain après-midi. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires sur cela? Je sais que nous avons encore quelques minutes à notre disposition puisque cette séance s'achève à 10h45. Y a-t-il d'autres commentaires si ce n'est pas le cas? Pas le cas? Vous n'avez pas d'autres questions, commentaires à faire? Bien, alors nous allons lever la séance. J'aimerais simplement souligner que nous avons quelques nouveaux membres à la CCNSO. Alejandra Reynoso, où êtes-vous là-bas? Bienvenue, une nouvelle membre de la CCNSO. Et Christelle Vavan, membre nommée par NOMCOM. Et également, un très ancien membre a présenté sa démission. Chris D. Spain, au micro. Oui, Martin, je vous vois là au fond de la salle. Et il a décidé de se retirer du monde CCTLD. Il a décidé donc de se retirer, de se consacrer à sa vie privée. Kiss doit rester un petit peu plus longtemps en raison du ICG, mais on a travaillé depuis très longtemps ensemble, donc j'aimerais le remercier parce qu'il quitte son poste au sein du Conseil. Et enfin, ce matin, j'ai appris que Dottie Sparks a décidé de renoncer à son poste à la CCNSO et je la connais depuis 15 ans, depuis 2000. Elle est l'une des fondatrices de la CCNSO, l'une des personnes qui, dès le début, à mes côtés et aux côtés de Barry et Bernie, s'est engagée. Et c'était une mère pour nous. Et comme toute mère, elle nous donnait de l'amour, de la sagesse. Et on l'aimait beaucoup. Et je suis vraiment triste qu'elle nous quitte. Merci beaucoup, Dottie. Byron Holland au micro, oui, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, nous allons lever cette séance. Merci. Steve Crocker, merci Byron et merci à tous.